Chapitre 151, ce qui se passait dans l'église de l'Assomption le 30 mars de l'an de grâce 1827. L'église de l'Assomption, dont la construction remonte à l'année 1670, est sans doute un des plus vulgaires monuments de Paris. La forme en est malheureuse. Elle représente une tour couverte d'un immense dôme de 62 pieds de diamètre, quelque chose de pareil à la halle au blé. De sorte que, dit le grand dans la description de Paris et de ses édifices, de sorte que, ce monument étant trop élevé pour son diamètre, l'intérieur a l'apparence d'un puits profond plutôt que la grâce d'une coupole bien proportionnée. Avant d'être érigée en église paroissiale, l'Assomption était un couvent de religieuses. Les sœurs qui habitaient ce couvent s'appelaient les Audriettes. Elles étaient chargées, dans l'origine, de servir un hôpital de pauvres femmes. Peu à peu, l'hôpital devint un couvent et elles vécurent inutiles et constituées en communauté religieuse. La conduite de ces religieuses était loin d'être régulière et l'on avait plusieurs fois tenté, mais vainement, d'établir la réforme dans leur maison. Enfin, le cardinal de La Rochefoucauld entreprit de les soumettre à la règle et de les transférer dans un hôtel qu'il avait possédé au faubourg Saint-Honoré, qu'en 1603 il avait vendu aux jésuites et que ceux-ci, par contrat du 3 février 1623, revendirent aux religieuses Audriettes. Elles y étaient établies depuis 6 mois et en avaient déjà fait disposer l'intérieur d'une manière convenable à leur état, lorsque le titre des Audriettes fut supprimé et les revenus réunis au nouveau monastère du faubourg Saint-Honoré, auquel on donna le nom d'Assomption. Seulement la chapelle de cette maison ne parut pas suffisante aux religieuses. Elles achetèrent l'autel d'un sieur dénoyé et firent commencer en 1670 la construction de leur église qui fut achevée 6 ans après. Cette lourde coupole, ombrée par un ciel noir, était donc ce jour-là, comme toujours, d'un assez triste et vulgaire aspect, et il ne fallait pas moins que toute cette foule imposante pour donner au spectacle qu'on avait sous les yeux son côté poétique et solennel. Au moment où le cortège funèbre fut prêt à quitter la maison mortuaire pour se rendre à l'église, les anciens élèves de cette école de Châlons que M. de Liancourt avait fondée demandèrent à porter le cercueil d'un de leurs bienfaiteurs. Un des ministres de Charles X, M. le duc de La Rochefoucauld d'Oudouville, proche parent du mort, et qui devait tenir un des coins du drap mortuaire, accorda la permission au nom de la famille. Le cortège se mit donc en marche, lentement, solennellement, et l'on arriva dans le plus grand ordre à l'église. La foule, entassée aux deux côtés de la rue, calme et silencieuse, s'écartait et se découvrait respectueusement au fur et à mesure que s'avançait le cercueil. Il faudrait avoir l'armorial des notabilités du temps pour donner une idée des assistants illustres que les obsèques du noble duc avaient attirés ce jour-là dans l'église de l'Assomption. C'était d'abord les comtes Gaëtan et Alexandre de La Rochefoucauld, fils du défunt, et toute la famille du duc, puis les ducs de Brissac, de Lévis, de Richelieu, puis les comtes Portalis et de Bastard, le baron Portal, messieurs de Barante, l'aîné Pasquier, des Cases, l'abbé de Montesquou, de la Bourdonnais, de Villèle, Ide de Neuville, de Noailles, Casimir Perrier, Benjamin Constant, Roger Collard, Béranger. Entre deux des pilastres dont le mur circulaire de l'église était formé, un homme qui avait déjà joué en 1789 et qui devait jouer en 1830 un grand rôle dans les affaires du pays, l'illustre et bon Lafayette, échangeait de temps en temps avec un autre homme de 42 à 45 ans, mais qui en paraissait à peine 35, quelques paroles accompagnées de ce ton de déférence que l'excellent vieillard avait pour tout le monde, mais qu'il savait si bien accentuer en faveur des gens qu'il honorait particulièrement de son estime. Cet homme, dont le nom est déjà venu 2 ou 3 fois présenté sous notre plume, mais que nous n'avons pas encore eu l'honneur de présenter à nos lecteurs, était M. Anténor de Marande, le mari de celle des 4 sœurs de Saint-Denis que nous avons vues réunies autour du lit de Carmélite et dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, et que nous n'avons fait jusqu'à présent qu'indiquer sous le nom de Lydie. Monsieur de Marande était à cette époque âgé, comme nous l'avons dit déjà, de 40 à 42 ans. C'était un bel et élégant banquier, aux cheveux blonds, à la barbe blonde, aux yeux bleus, aux dents blanches et aux joues roses. Une grande distinction, non point celle que donne la naissance, mais celle que donne l'étude, l'éducation, l'habitude du monde, et celle enfin dont tous les gentlemen anglais semblent avoir le privilège, était d'un des principaux caractères de sa personne. Il y avait en lui quelque chose de roide qui tenait à son éducation première. Destiné par son père, vieux colonel de l'Empire tué à Waterloo, à la carrière militaire, il avait été élevé à l'école polytechnique d'où il était sorti en 1816. Alors, voyant que l'avenir était à la paix, il avait tourné ses études du côté de la banque. Comme il avait étudié Polybe, Montecuculli et Jomini, il avait étudié Turgot et Necker, et comme son esprit était apte à tout comprendre, au lieu de devenir un officier illustre, il était devenu un banquier distingué. Ainsi que nous l'avons dit, sa tournure avait gardé quelque chose du col de soie noire et de l'habit boutonné dans lequel il avait été emprisonné pendant 10 ou 12 ans. Une femme pouvait le trouver beau, car pour la femme, l'élégance et la distinction sont déjà la moitié de la beauté. Mais un homme devait le trouver guindé, gourmé, tendu, fat en un mot. Au reste, il avait dû à cette affectation du « comme il faut » anglais une ou deux affaires dont il s'était tiré avec un courage et un sang-froid des plus remarquables. La première de ces affaires qui lui était arrivée le premier du mois avait été vidée sans retard à l'instant même à l'épée et il avait grièvement blessé son adversaire. Pour la seconde, qui devait avoir lieu au pistolet et qui lui était arrivée le 22 du mois, il avait demandé 10 jours de délai. Le but de ces 10 jours de délai était de régler son 30, comme on dit en termes de banque. Son 30 réglé, il avait écrit son testament, et puis il avait fait rappeler à son adversaire que le délai demandé par lui expirant le lendemain, il se tenait à sa disposition pour le lendemain, à l'heure et au lieu qui lui conviendrait. Les adversaires, placés à 30 pas l'un de l'autre, avaient fait feu en même temps. Monsieur de Marande avait été blessé à la cuisse, son adversaire avait été tué roide, cela même sans qu'un pli de la cravate blanche qu'avait l'habitude de porter Monsieur de Marande eût été dérangé de sa symétrie habituelle. Jamais il n'avait parlé de ces deux affaires et paraissait fort contrarié lorsqu'on les lui rappelait. Quant à sa force à l'épée ou son adresse au pistolet, il n'en avait jamais donné que ces deux preuves, et sans ce double duel, on eût probablement ignoré, même dans son monde le plus intime, qu'il sût toucher un pistolet ou une épée. Seulement on disait qu'il avait chez lui une salle d'armes et un tir où n'entrait jamais que son domestique, une salle d'armes où n'entrait jamais qu'un vieil Italien nommé Castelli, qui servait de répétiteur au premier maître d'escrime de Paris. Monsieur de Marande était avec messieurs de Rothschild, Lafitte et Aguado, l'un des banquiers les plus célèbres du continent, non pas comme un des plus riches, mais un comme des plus hasardeux. On citait de lui des opérations financières d'une incroyable audace, des actions d'éclat, de bonheur et de génie. Aussitôt qu'il avait eu l'âge légal, il avait été envoyé à la Chambre par son département, dans lequel il avait obtenu une majorité qui touchait presque à l'unanimité. Et quelques 2 années auparavant, il avait prononcé, après un silence de près de 3 ans, un discours sur la liberté de la presse qui prouvait qu'il avait étudié les auteurs antiques et modernes avec non moins de conscience que les stratégistes et les économistes. Ami intime de Benjamin Constant, de Manuel et de Lafayette, il siégeait au centre-gauche et paraissait enrôlé sous le drapeau des banquiers politiques Casimir Perier et Lafitte. Ce drapeau, quel était-il? C'était une question assez difficile à définir. Cependant, ceux qui se prétendaient bien instruits dans les affaires du temps disaient que ce drapeau, représentant une opinion intermédiaire entre la République et la monarchie absolue, était celui d'un prince qui, pour rester prudemment caché dans l'ombre, n'en travaillait pas moins au renversement de l'état de choses actuel. on voit qu'il existait une nuance entre l'opinion du général de Lafayette, qui représentait la monarchie républicaine avant la Constitution de 89, et celle de M. de Marande, qui, s'il était en effet agent du prince, n'était que l'expression d'une monarchie bourgeoise avec un remaniement de la charte de 1815. Au reste, on eût été parfaitement au courant des opinions de l'un et de l'autre, si l'on eût entendu les quelques mots que nous venons de leur voir échanger. « Vous avez été prévenu de ce qui se passe là-bas, général. Oui, il y a une hausse dans les fonds autrichiens. Jouerez-vous à la hausse ou à la baisse ? Non, je resterai neutre. Est-ce votre avis seulement ou celui des banquiers, vos amis ? C'est l'avis unanime. Alors, le mot d'ordre ? Laissez faire. Et vous, avez-vous vu le prince ? Oui. L'avez-vous instruit du mouvement qui se fait ? Il a des fonds dans la maison à Krochstein et Eskeles, je crois. Oui, il y a une grande partie de sa fortune. Jouera-t-il pour ? Jouera-t-il contre ? Non, comme vous, il laissera faire, dit M. de Marande. C'est ce qu'il y a de plus prudent, répondit le général Lafayette. Et tous deux, à partir de ce moment, tout en étudiant avec la plus profonde attention ce qui se passait autour d'eux, gardèrent le silence. À 5 ou 6 pas du général et du banquier, après avoir recueilli avec respect quelques paroles que leur adressait Béranger, 4 jeunes gens de belle mine avaient fait un pas en arrière et causaient à voix basse juste au moment où le cercueil entrait dans l'église. Ces 4 jeunes gens étaient nos amis, Jean-Robert, Ludovic, Pétrus et Justin. Ils cherchaient des yeux au milieu de toute cette foule quelqu'un qu'ils s'attendaient à y trouver et que, malgré leur investigation acharnée, ils n'y trouvaient pas. Ils l'aperçurent enfin parmi les quelques personnes qui avaient pu entrer à la suite du cercueil. C'était Salvator. Le jeune homme les aperçut, lui, du premier regard, et fendant la foule, il alla droit à eux. Il mit cependant un assez long temps à traverser l'espace qui le séparait des jeunes gens, car tout le long de la route qu'il avait à faire, les mains s'étendaient par centaines pour serrer la sienne. Lorsqu'il fut parvenu jusqu'aux pilastres, à la base desquels étaient appuyés nos 4 amis, les 4 mains s'avancèrent en même temps, et les jeunes gens formèrent un cercle au milieu duquel se trouva Salvator. « Vous avez quelque chose à nous dire ?» demanda Jean-Robert, qui avait lu une nuance d'inquiétude dans les yeux du jeune homme. « Oui, et quelque chose de très important même, » dit Salvator. Puis jetant autour de lui un regard de défiance. « Quoi que vous voyez, quoi que vous entendiez, si bonne que vous paraisse l'occasion, ne faites rien. »« Que va-t-il donc arriver ?» demanda Ludovic. « Je l'ignore, dit Salvator, mais quelque chose comme une émeute. » « Un jour d'enterrement ? » demanda naïvement Justin. Salvator sourit. « Vous connaissez le proverbe, mon cher Justin, qui veut la fin, veut les moyens. » « Alors pourquoi nous dites-vous de ne rien faire ?»« Parce qu'il y a émeute et émeute. » « Sans doute, répondit Ludovic, qui comprit le sens des paroles de Salvator, il y a les émeutes que l'on fait et les émeutes que l'on fait faire. »« Autrement dit, il y a des émeutes sans émeutiers, ajouta Jean-Robert. « Diable, dit Pétrus, celles-là sont les plus dangereuses à ce que j'ai toujours entendu dire à mon cher oncle. » « Et votre cher oncle est un homme de sens, monsieur Pétrus, fit Salvator. » Et puis, se tournant vers Justin, « Tenez-vous donc tranquille, mon cher Justin, et si l'on crie n'importe quoi à la sortie de l'église, soit vive la liberté de la presse, soit à bas les ministres, soit toute autre chose, laissez crier. Et si l'on donne quelques tapes, laissez taper. Si l'on vous menace, ne vous rebiffez pas. En un mot, assistez à ce je-ne-sais-quoi qui va s'accomplir et que je sens dans l'air avec le sang-froid d'un sourd, le calme d'un muet et l'impassibilité d'un aveugle. « Soit, dit Justin en soupirant et comme un homme qui voit s'échapper à regret une bonne occasion de faire ses preuves. Salvatore comprit le mouvement du jeune maître d'école et, en forme de consolation, lui dit « Un peu de patience, cher ami, il se présentera avant peu quelque occasion plus propice. Rengainez donc votre bonne volonté jusque-là, provisoirement, le plus profond silence. Nous en avons déjà trop dit, voyez les mines patibulaires qui nous entourent. En effet, dans toutes les directions, près des jeunes gens comme loin d'eux, se promenaient avec lenteur et componction, pareils à des assistants pieux qui craignent de troubler le recueillement général par le bruit de leurs pas, un nombre indéfini de ces hommes qu'aucune toilette ne déguise aux yeux exercés et qui produisent toujours, en se mettant au milieu de la bonne compagnie, l'effet que font, dans un drame ou dans un vaudeville, en se mêlant aux acteurs, les comparses qui représentent les invités à une noce ou à un repas. Au milieu de ces hommes, comme un centre sur lequel se rattachaient tous les regards de ces étranges invités, se promenaient deux individus que nos lecteurs ne seront peut-être point fâchés de retrouver. L'un vêtu d'une longue lévite bleue, portant le ruban de chevalier de la Légion d'honneur, s'appuyant sur un rotin, comme un homme qu'une ancienne blessure force à chercher, cette troisième jambe dont parle le sphinx d'Édipe semblait un ancien militaire. L'autre, revêtu d'une redingote brune, avait l'honnête aspect d'un commerçant retiré des affaires. En se parlant, ils se donnaient pour toute qualification le titre de « voisin ». Ces deux individus, à la mine placide, n'étaient autres que nos vieilles connaissances Gibassier et Carmagnol. Maintenant, comment Carmagnol, qui était parti pour Vienne avec M. Jacquel, et Gibassier, qui était parti tout seul pour Kehl, se trouvaient-ils réunis dans l'église de l'Assomption, prêt à donner le mot d'ordre à toute une armée d'agents qui inquiétaient Salvatore? C'est ce qu'apprendront nos lecteurs si nous avons su leur inspirer le désir de connaître la suite de cette histoire. Fin des Mohicans de Paris. En attendant, les 5 volumes de la suite Salvatore.